Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons deux grands martyrs, Saint Faustinien et Saint Jovite. Ce sont des martyrs de tout premier siècle. Ils ont peut-être dû connaître Saint Jean l'évangéliste. Ces deux saints sont nés vers Brescia, c'est le nord de l'Italie. Et ils sont nés d'une grande famille de la région. Ils étaient donc deux frères et ils ont été formés très tôt dans la vertu. Ils étaient vertueux et on se demandait, mais pourquoi ces deux frères étaient si vertueux? Eh bien, le secret de leur vertu, c'est qu'ils étaient très obéissants. Leurs parents leur avaient dit que s'ils voulaient devenir vertueux, il fallait être obéissant. Pourquoi? Eh bien, parce que les parents avaient déjà vécu bien plus qu'eux, connaissaient beaucoup de choses et ils savaient ce qu'il fallait faire pour devenir vertueux. Alors il leur avait fait comprendre cela et ils s'étaient appliqués avec obéissance et ils avaient réussi. Ils étaient devenus d'une vertu remarquable. Tout le monde les admirait et ils étaient toujours unis, toujours ensemble. Ils s'aimaient beaucoup, ils avaient une grande charité. Et ils étaient si vertueux qu'un jour l'évêque du lieu, Apollonius, l'évêque de Brescia, les avait remarqués et il les a choisis. Faustinien, il l'a ordonné prêtre. Et Jovite, il l'a ordonné diacre. Vous savez que le rôle du diacre, c'est de prêcher. Le rôle du prêtre, c'est de prêcher et de donner les sacrements, de célébrer le saint sacrifice de la messe. Et on était en temps de persécution. C'était en l'an 100, 110, 120. C'était encore les grandes persécutions. Vous savez que les empereurs romains, qui étaient des païens, persécutaient les chrétiens. À cette époque, les chrétiens étaient mal aimés, mal vus. On les mettait à mort. Et donc, Saint Faustinien et Saint Jovite allaient partout. Il y avait de nombreuses conversions. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils touchaient les âmes. Et même les païens se convertissaient. Et un jour, le gouverneur de la région, il s'appelait Italique, furieux de voir qu'il y avait de moins en moins de ceux qui venaient adorer les faux dieux. Mais il a un peu observé ce qui se passait. Il s'est aperçu que Saint Justinien et Saint Jovite prêchaient et gagnaient les âmes et les détournaient du paganisme. Alors il les fit arrêter, les fit emprisonner, et il se disait, comment est-ce que je vais m'y prendre? Alors il leur a fait des menaces. Il dit, écoutez, faites attention, hein, si vous continuez comme ça, je vous mettrai à mort. Et puis, ça ne réussissait pas. Ils voyaient qu'ils n'avaient pas peur. Alors il leur a fait des promesses. Si vous prêchez pour les faux dieux, je vous donnerai des richesses, je vous donnerai des belles places dans mon palais, des grandes fonctions. Alors réfléchissez bien. Rien à faire. Ils avaient compris que une seule chose était nécessaire, c'était d'aller au ciel. Et que s'il fallait mourir pour aller au ciel, eh bien, tant pis. Ils étaient tout contents. Et un jour, le grand empereur romain, Adrien, devait aller en France et il devait passer par Brescia. Alors, le gouverneur s'est dit, eh bien, très bien, quand Adrien viendra, je lui expliquerai ce qui se passe et puis c'est à lui de décider. Et voilà qu'un jour arriva, le grand empereur Adrien, avec tous ses soldats, son armée, toute la cour, tout ce qui était à son service, c'était très impressionnant. Quand l'empereur romain arrivait dans une région, tout le monde tremblait. Et le gouverneur alla voir Adrien, l'empereur. Puis il dit, voilà, ici j'ai deux chrétiens qui empêchent les païens, empêchent nos hommes de venir rendre des cultes à nos dieux romains. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Adrien dit, ben, amenez-les-moi. Alors, on amena Saint Faustin et Saint Justinien devant Adrien. Adrien, qui était dans son trône, à la royale, leur dit, vous allez venir avec moi dans le temple du soleil. Il y avait un temple à Brescia, dans lequel il y avait une statue, une grande statue, toute dorée, et c'était leur dieu soleil. Alors ils sont allés dans ce temple, Adrien avec Italique, et puis les deux, Faustin et Jovite. Puis il a dit, maintenant vous allez adorer ce dieu-là. Alors nous n'adorons pas un faux Dieu, nous adorons le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a fait le soleil, qui a fait toutes les étoiles, qui a fait les astres. C'est lui que nous adorons, mais pas un faux Dieu et pas un soleil. Et cette statue du faux Dieu, du Dieu soleil, était revêtue d'or. Et il avait des rayons autour de la tête qui représentaient des rayons en or fin. Et au même moment, j'invite Justinien, on dit ces paroles, la statue est devenue toute noire. L'empereur était très surpris. Qu'est-ce qui se passe? C'est les magiciens. Alors il fait venir des serviteurs, il dit, allez, nettoyez-moi cette statue. Et dès qu'ils ont commencé à toucher la statue pour la nettoyer, elle est tombée en cendres. Alors furieux, il a dit, mettez-les en prison. Alors ils les ont mis en prison. Puis il a réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le mettre aux bêtes. On va les mettre dans l'arène avec des lions, et puis les lions vont les manger. Mais, comme ils avaient fait beaucoup de conversions, alors il s'est dit, bien, on va faire ça publiquement. On va réunir la ville, on va faire une annonce pour que tous les chrétiens aient peur et puis qu'ils arrêtent d'adorer leur Dieu, mais qu'ils adorent nos dieux. Alors ils ont fait une annonce publique. Les gens se sont rassemblés dans l'arène. Il y avait des cirques dans les grandes villes d'Europe. Et ils avaient des lions en cage. Ils les avaient privés de manger pour qu'ils soient affamés. Et on a mis donc Saint Faustin et Saint Jovite. Les lions sont arrivés, se sont précipités, puis sont arrivés autour d'eux et se sont couchés autour d'eux comme des agneaux. Alors ils étaient tous étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les prêtres des faux dieux, ils avaient des prêtres dans ce temple du soleil, ont pris une autre statue de Saturne, parce qu'ils ont dit, c'est grâce à Saturne, au dieu Saturne, qu'ils ont été épargnés, qu'il y a eu ce fait merveilleux. Alors ils sont venus avec une statue de Saturne, près de Faustin et de Jovite. Puis on dit, ben non, vous adorez ça. À peine qu'ils sont arrivés, les lions se sont jetés sur eux, ils les ont dévorés, les ont tués sur place. Et Italic était là avec eux. À ce moment-là, la femme d'Italic est venue reprocher à Adrien, c'est à cause de tes faux dieux qui ne sont même pas capables de défendre les prêtres, les ministres de tes dieux, et tu crois à eux encore. Et c'est à cause d'eux que maintenant je suis veuve, que mon mari est mort. Et elle s'est convertie. Et beaucoup qui étaient là présents aussi, quand ils ont vu ça, ils se sont convertis. Alors furieux, ils ont fait venir des ours et des léopards, qui eux, ils les avaient excités en leur brûlant un peu les chairs pour les rendre furieux, et les ont lâchés dans l'arène. Et à ce moment-là, les ours et les léopards sont venus avec les lions, et ils sont restés tranquilles, couchés autour des deux. Alors là, ils ne comprenaient plus rien. Et Saint Faustinien et Saint Jovite ont donné l'ordre aux animaux de partir dans la forêt. Et les animaux sont partis dans la forêt, tranquillement. Alors ils ne savaient plus tellement quoi faire. Ils se sont dit, eh bien, il faut qu'on leur fasse souffrir la torture. Et il y avait aussi parmi ceux qui étaient venus avec Adrien, l'empereur, un grand personnage, Calossaire, qui s'appelait. C'était un qui était à côté d'Adrien, qui avait un rôle important. Eh bien, lui aussi, il s'est converti. Alors, il fut enchaîné et on le mit en prison. Et puis, on leur priva de nourriture et de boisson. On se dit, eh bien, maintenant, on va les faire mourir de faim et de soif. On ne donne plus rien à manger, plus rien à boire. Eh bien, il y a des anges qui étaient venus dans la prison, les réconforter et illuminer le cachot. Et après ce réconfort des anges, ils étaient tellement heureux d'avoir pu souffrir quelque chose pour Jésus. Ils se disaient, eh bien mon Dieu, merci. Merci de nous avoir fait souffrir quelque chose pour vous. Vous avez tant souffert pour nous. Eh bien nous sommes contents de souffrir pour vous. Tellement ils aimaient le bon Dieu. Et après tous ces événements, beaucoup de gens dans la ville se convertirent. Et l'empereur prit peur. Il s'est dit, ça y est, maintenant peut-être que tous ces gens vont se soulever. Et puis ils vont se révolter. Alors il fit mettre à mort beaucoup de chrétiens, et puis il donna l'ordre d'emmener les Saint Faustinien, Saint Jovite et Calossaire à Milan pour crois pas qu'ils continuent de convertir des gens à Brescia. Et voilà qu'ils arrivent à Milan. Tout le monde attendait l'empereur, puis on avait dit, l'empereur amenait des chrétiens et qu'il allait les faire persécuter, faire souffrir. Alors tout le monde était là, en émoi, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà qu'arrive l'empereur à Milan. Et là, en leur demandant encore d'adorer les faux dieux et dire non, il n'y a rien à faire, on n'adore qu'un seul Dieu, le vrai, l'unique. Tant pis si vous nous mettrez à mort, si vous nous torturerez. Et alors, on les tortura, on les coucha par terre, on leur ouvrit la bouche et on remplit leur bouche de plomb fondu. Vous savez, le plomb fondu, c'est terriblement chaud. Eh bien, ils ne sentirent aucune douleur, tandis que les bourreaux se firent brûler par le plomb fondu. Alors Adrien était furieux, il ne savait plus quoi faire. Il dit, maintenant on va les torturer. Alors il faisait tremper dans le feu des lames de fer, il les faisait rougir au feu, et puis il les brûlait comme ça. Alors au bout d'un moment, bien sûr, c'était très douloureux, Calossaire qui disait à Saint Faustinien et Saint Jovite, « Priez votre Dieu pour moi, moi je n'arrive plus à supporter, ces souffrances sont trop douloureuses. » Alors ils lui ont répondu, « Courage, ça ne durera qu'un moment, après c'est la vie éternelle qui nous sera accordée. » Et à peine qu'ils avaient dit cette parole, qu'il ne sentit plus les douleurs. Vous voyez, comme le bon Dieu est capable de faire que les martyrs ne sentent pas les douleurs. Et alors, les bourreaux, eh bien, ils se sont décidés de mettre le feu. Ils avaient mis autour d'eux des morceaux d'étoupe remplis d'huile, imbibés d'huile, qui prenaient feu. Eh bien, le feu perdait sa force et ne faisait aucun mal à Saint Faustinien, à Saint Jovite et à Calossaire. Alors, furieux, l'empereur se décide de les envoyer à Rome, enchaînés. Alors on les amena à Rome, attachés dans ses fers. Et là, ils ont eu la consolation de voir le pape qui devait se tenir caché, parce qu'ils étaient tous pourchassés. Le pape qui s'appelait Évariste. Et là, il les consola, il leur donna du courage, il leur parla de la vie éternelle, il disait, bien voyez, après, vous aurez une vie de bonheur parfait. Toutes ces souffrances seront finies. Jamais plus vous ne souffrirez. Mais si vous abandonnez le combat, vous irez en enfer. Et là, ce sera des souffrances encore plus terribles. Ce sera une mer de feu dans laquelle vous serez plongé. Voyez. Mais ils aimaient tellement le bon Dieu qu'ils ont dit, non, non, nous, on ne veut plus offenser, on ne veut pas offenser le bon Dieu. On ne veut qu'une seule chose, c'est d'aller le voir. Et là encore, on les tortura. Encore quelques fois. Puis on les envoya à Naples, au bord de la mer, et là, on les jeta à la mer. Et ils ne moururent encore pas. Et pas moyen de les faire mourir. Ah ben alors, mais il y avait toujours des conversions qui se faisaient. Parce que beaucoup de gens assistaient à tout cela, ça se disait, tout le monde disait. On n'a rien pu faire avec eux, ils ne sont pas arrivés à les mettre à mort. Ils ont mis devant les bêtes, ils ne sont pas morts. On les a brûlés, on a fait toutes sortes de tortures, ils ne sont pas morts. Et ensuite, les bourreaux se sont décidés, ils ont dit, eh bien, on va les ramener à Brescia. Et puis là, alors, on va les mettre à mort. Comme ça, on fera peur à tous ceux qui ont été convertis. Et ils retournèrent à Brescia. Ils décidèrent de leur couper la tête. Et ils moururent ainsi, après avoir résisté à de nombreux combats. Ils rendirent leur âme à Dieu, tout en chantant. Voyez l'attitude des chrétiens devant la mort, devant la souffrance. Ils chantent. Parce qu'ils savent que Dieu les voit du ciel et qu'ils sont agréables à Dieu. Et ils étaient heureux de donner leur vie pour Dieu, comme Dieu a donné sa vie pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Eux étaient contents de donner leur vie par amour pour le bon Dieu. Et c'est le plus grand acte d'amour que l'on puisse faire pour Dieu. Voilà. Alors retenez ça de cette vie des saints Faustinien et Jovite. Ils sont devenus vertueux très vite, parce qu'ils ont été obéissants. Vous verrez, l'obéissance vous rendra vertueux. Et c'est le démon qui fera tout pour que vous ne soyez pas obéissants, parce qu'il sait cela. Si vous êtes désobéissant, il peut vous mettre des chaînes, il peut vous avoir, il vous fera tomber comme il voudra. Mais si vous êtes obéissant, vous lui échapperez. Il ne pourra pas faire grand-chose pour vous, sur vous. Voyez ? Eh bien voilà, retenez cela et demandons à Saint-Faustinien et à Saint-Jovite, et à Saint-Calossaire, de nous aider aussi à être vertueux, à savoir toujours obéir à nos supérieurs, à nos parents, parce qu'en obéissant à nos parents, on obéit à Dieu. Et puis, ainsi, nous ferons de grands progrès dans la vertu, et c'est grâce à la vertu qu'ils ont souffert, qu'ils ont réussi à endurer le martyre. S'ils n'avaient pas été vertueux, ils ne seraient pas mon martyr, et maintenant ils ne seraient peut-être pas au ciel. Oui. Voilà, et bien demandons cette grâce à ces saints, prions-les, qui du haut du ciel, maintenant ils nous regardent. Ils nous disent, maintenant, qu'est-ce que vous faites vous? Est-ce que vous voulez faire comme nous? Mais faites comme nous, aimez le bon Dieu, vous verrez qu'est-ce que le bon Dieu est bon. Il vous récompensera, et un jour vous serez avec nous dans le ciel. Voilà, ils nous regardent du haut du ciel. Alors nous allons les prier aujourd'hui, que c'est leur fête. Hein, demandons aussi à la Sainte Vierge qui les a encouragés, qu'ils ont aimé aussi, de nous obtenir la grâce d'imiter ces saints martyrs et que nous soyons toujours agréables au bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Saint Jean de Matha, que l'Église nous fait fêter aujourd'hui. Ça a été un des plus grands saints de cette époque, avec Saint François d'Assise et Saint Dominique, celui qui a fondé l'ordre des Dominicains, Saint François d'Assise qui a fondé les Capucins. Saint Jean de Matha a fondé aussi un ordre. Saint Dominique a été suscité par Dieu pour faire connaître Dieu. Ça a donné l'ordre des Dominicains qui ont comme mission l'enseignement, l'ordre des prêcheurs qui font connaître Dieu par tout le monde. Les franciscains, eux, ont donné une nouvelle ferveur dans l'Église pour imiter plus notre Seigneur Jésus-Christ dans la vertu de pauvreté. Et Saint Jean de Matha, lui, a eu la particularité de faire croître davantage la vertu de charité, surtout envers le prochain. Il est né en 1160, famille en France, en Provence, mais il est né particulièrement, c'est-à-dire que les parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors ils ont beaucoup prié, et un jour, la maman a eu une voix qui lui a dit: tu auras un enfant, mais cet enfant délivrera beaucoup de monde. Elle ne comprenait pas. Et en fait, il est né. Quelque temps après, la maman l'avait bien formé et à connaître Jésus. Elle avait parlé beaucoup des œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde, c'est le bien que l'on fait au prochain. Et elle allait souvent avec lui dans les hôpitaux, voir les malades, les malheureux, où elle allait dans les maisons des pauvres, des villages. Elle leur apportait un peu de réconfort, un peu de provision. Et lui était donc habitué à aller avec sa maman. Et plus tard, quand elle recevait un peu d'argent, eh bien, il donnait toujours cet argent à tous les pauvres qu'il rencontrait. Et il ne lui restait plus rien. Il ne gardait rien pour lui. Il aimait faire plaisir et il savait qu'en donnant aux pauvres, c'était à Jésus qu'il donnait. La maman lui avait raconté la merveilleuse histoire de Saint-Martin. Saint-Martin qui avait donné son manteau à un pauvre malheureux qui était au bord de la route. Et la nuit, Saint-Martin eut la vision de voir Jésus revêtu de ce manteau. Quel plaisir il a eu. Alors il pensait souvent à ça et aussi il faisait des aumônes à tous les malheureux. Puis on l'a envoyé à faire des études. Le papa était chevalier d'une grande famille et il voulait que son fils aussi devint chevalier. Alors on lui fait faire des études pour qu'il reçût une bonne éducation. Et là, il s'appliquait avec beaucoup d'attention à écouter ce que leur maître disait. Il aimait beaucoup travailler, il était appliqué à tout ce qu'il faisait. Il aimait apprendre, mais il aimait beaucoup le bon Dieu. Un jour, son père lui a dit, bien maintenant, il était déjà adolescent, maintenant il faudra que tu te formes pour utiliser les armes. Les chevaliers apprenaient à utiliser les armes s'ils devaient affronter des ennemis, pour défendre aussi leur territoire, défendre aussi ceux qui se confiaient à eux. Et lui aimait beaucoup se retirer dans la solitude. Et il avait demandé à son père, eh bien, j'aimerais encore étudier la théologie avant. Et comme le papa était chrétien, il n'a pas osé refuser. Ça lui avait fait beaucoup de peine, mais il n'a pas refusé. Alors il est parti à Paris pour étudier la théologie. Et alors là, Il y avait de tout le monde qui venait étudier. Il y avait des gens de mauvaise vie, des gens qui venaient là, bah, c'était la grande ville, mais ils n'étaient pas vertueux. Mais quand ils voyaient Saint-Jean de Mata, ils étaient édifiés. Et quelquefois, Saint-Jean leur faisait des reproches. « Ça, ce n'est pas bien. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est mal. Tu déplais au bon Dieu. » Alors, ils se reprenaient et ils évitaient de mal agir quand Saint-Jean était là. Vous voyez comme un saint rayonne autour de lui. Un jour, il y avait un étudiant qui avait une mauvaise pensée, qui voulait faire quelque chose de très mal, un grave péché. Et puis Saint-Jean l'attrape et lui dit « Attention, hein, ce que tu prévois de faire dans ton esprit, c'est très mal. » L'étudiant fut si surpris qu'il tomba à genoux à ses pieds et lui dit « Bien, tu dois être un prophète pour avoir pu savoir ce que je pensais dans ma tête. » Et il s'est converti. Il a promis à Saint-Jean de Mata de ne pas faire ça et de toujours bien vivre. Vous voyez, ce qu'il faisait déjà au collège. Et là, alors, il fit de grands progrès. Il apprit ses sciences et il aimait apprendre ses sciences de Dieu. La théologie, c'est l'étude de Dieu, de la révélation. Tout le monde était émerveillé de sa sagesse, tous les professeurs. Et puis, l'évêque de Paris aussi. Alors, ils se sont décidés de le faire prêtre. Mais lui, il a hésité, il ne voulait pas. Il avait trop en estime ce qu'était que le prêtre. Comment, moi, devenir prêtre? Mais c'est un trop grand honneur. Et puis, un jour, il s'était réfugié dans une église à prier pour savoir qu'est-ce que le bon Dieu voulait de lui. Et là, il entendit une voix. « Apprends la sagesse et tu me feras plaisir. » Alors, il s'est encore appliqué davantage à étudier la sagesse de Dieu. Et puis, là, ensuite, il accepta. Et il se fit ordonner prêtre. Il avait encore quelques hésitations, savoir si c'était vraiment la volonté de Dieu. Et lorsque l'évêque l'a consacré prêtre, il y a eu une colonne de feu qui est descendue se reposer sur sa tête. Et tous ceux qui assistaient à cette ordination ont été surpris. Ils ont dit là, Dieu s'est manifesté. Et quelques jours après, il devait dire sa première messe. Alors, beaucoup de monde était venu assister puisqu'ils avaient entendu parler de cette colonne de feu qui était venue sur sa tête. Ils ont dit, ils se disaient, ça doit être un homme extraordinaire. Ça doit dire un grand saint. Alors beaucoup de monde était venu assister à la première messe. Et lorsque le prêtre a consacré l'hostie, les gens se sont aperçus qu'il était devenu tout lumineux. De sa tête sortaient des rayons lumineux. Et il avait les yeux élevés vers le ciel. Et il ne bougeait plus. Tout le monde avait assisté, ça a duré un moment. Et après la messe, l'évêque et quelques prêtres sont allés vers lui. Puis lui ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et lui ne voulait rien dire. Mais l'évêque a insisté. Alors il leur a dit, bien oui, j'ai vu un ange de Dieu venir sur une nuée. Il avait sur la poitrine une croix rouge et bleue. Et il y avait de chaque côté de cet ange deux prisonniers, un chrétien et un musulman. Et ils étaient là, ils suppliaient l'ange de leur venir en aide. Qu'est-ce que ça pouvait bien signifier cette vision? Lui n'avait pas compris, l'évêque non plus. Alors il réfléchissait, il était pensif, qu'est-ce que ça pouvait bien dire? Qu'est-ce que le bon Dieu voulait dire par ça? Alors il s'est dit, je vais me retirer pour prier. Il y avait des montagnes, pas bien loin. Alors il s'est retiré, et là il y avait dans ces montagnes un autre saint, Saint Félix de Valois, qui lui s'était retiré du monde pour vivre en ermite. Alors il alla auprès de Saint Félix de Valois, il lui demanda des conseils. Saint Félix ne savait tout de suite pas ce que ça voulait dire. Il a dit, bien, on va prier, on va faire des pénitences, on va prier, et puis on attend que le bon Dieu nous donne un signe. C'était un endroit retiré dans la forêt. Et un jour, ils étaient assis près d'une fontaine, en train de parler des choses de Dieu. Et ils ont vu arriver un cerf blanc qui venait près de la fontaine pour boire. Et ils ont remarqué qu'entre les cornes du cerf, il y avait la même croix que Saint Félix avait vue sur la poitrine de l'ange. La croix rouge et bleue. Alors cette fois-ci, ils se sont dit, bien, il y a quelque chose. Et on va aller trouver le pape, puis on va lui demander. Alors ils sont allés à Rome, trouver le pape Innocent III. Et là, ils ont expliqué au pape ce qu'ils ont vu, ne sachant pas quoi faire, qu'est-ce qu'il en pensait. Et le pape s'est dit, bien, attendez, attendons quelques jours, et puis je vais voir, on va prier, faire des pénitences, et on verra ce que Dieu veut. Et un jour, le pape est allé célébrer une grande messe à cette intention dans la basilique Saint-Jean de Latran. Et après avoir consacré l'hostie, le pape eut la même vision que Saint-Jean de Mata. Il vit un ange venir avec une croix sur la poitrine et deux captifs. Alors après la messe, il leur a dit, bien voilà, Il faut fonder un ordre, l'ordre de la très sainte Trinité pour le rachat des captifs. À cette époque-là, vous avez entendu parler des croisades. Il y avait des chrétiens qui s'étaient rassemblés, réunis en armée pour aller délivrer la Terre Sainte qui était aux mains des musulmans. Les musulmans avaient envahi la Terre Sainte et puis les chrétiens ne pouvaient plus aller faire des pèlerinages sur le tombeau pour prier où notre Seigneur était venu sanctifier la terre, où notre Seigneur avait vécu. Quand les chrétiens y allaient, ils se faisaient emprisonner par ces musulmans et puis alors les musulmans sont très méchants, très ennemis des chrétiens. Alors ils les faisaient renier leur religion, ils les battaient, ils les torturaient, ils étaient méchants avec eux. Alors des chrétiens s'étaient réunis et étaient partis en croisade pour délivrer la Terre Sainte afin qu'on puisse continuer d'aller faire des pèlerinages sur la terre où Jésus était venu. Et lors de ces croisades, il y en a eu beaucoup qui ont été tués, il y en a d'autres qui ont été faits prisonniers. Et puis, les musulmans aussi avaient des bateaux sur la mer et ils attaquaient les bateaux de marchands qui passaient. Ils pillaient, ils brûlaient les bateaux, ils emmenaient captifs tous les hommes dans leur pays. Alors ils leur faisaient travailler très durement. Et ils les mettaient dans des prisons, dans des cachots infects. Et beaucoup perdaient la foi. Après tant de souffrances, tant de tourments, ils reniaient leur foi parce qu'ils pourraient être dégagés de ces souffrances. Puis d'autres y résistaient. Alors ils étaient traités, mais comme pire que des bêtes. Alors Saint Jean, donc, de Matha et Saint Félix de Valois décidèrent de fonder un ordre pour aller délivrer ces captifs dans ces pays musulmans, au nord de l'Afrique, au Maroc, en Tunisie. Mais comment faire? Alors le pape, très heureux de cette décision, avait fait une déclaration dans toute l'Europe chrétienne. Et beaucoup de gens ont dit, nous on veut soutenir cet ordre, on va faire des aumônes à cet ordre nouveau pour qu'avec cet argent, ils puissent aller délivrer les captifs. Et c'est ce qui s'est fait. Saint Jean de Matha alla en Tunisie et ils rachetèrent les prisonniers. Ils devaient payer des fois très cher. Et puis, comme ça, tous ces prisonniers pouvaient être délivrés et pouvaient garder leur foi. Et il allait donc prêcher aussi pour fortifier les chrétiens. Et puis, ces prêches étaient si bien faites, les sermons étaient si bien faits que beaucoup se convertissaient. Les musulmans étaient furieux de voir que beaucoup se convertissaient à la religion catholique. Alors, un jour, ils sont décidés, celui-ci, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut le tuer. Un jour qu'il était seul dans les rues, plusieurs se sont jetés sur lui, ils l'ont roué de coups, ils l'ont blessé et il saignait. Alors il est tombé et ils ont cru qu'il était mort et ils sont partis. Et il était gravement blessé, mais le bon Dieu n'a pas permis qu'il mourût à ce moment-là. Il se remit et il continua à prêcher. Ces captifs, il fallait bien les emmener et de rester là, ils étaient tout le temps en butte aux persécutions. Alors ils se sont décidés, on va les rentrer en Europe. Alors ils sont montés dans un navire au bord de la mer, prêts à partir, et des musulmans sont arrivés, ils ont arraché le gouvernail, arraché les voiles, les mâts, le mât, afin que le bateau ne puisse plus partir. Alors Saint Jean de Matha et tous ceux qui étaient dans le bateau ont pris leurs vêtements, leurs manteaux, et ils ont fait des voiles avec cela, et ils sont partis. En priant le bon Dieu de les conduire au bon port. Mais ils n'avaient pas de gouvernail pour guider. Ils étaient bien en emprunté. Et le bon Dieu les préserva de tout danger. Et ils arrivèrent au port d'Ostie, en Italie. Et là, Saint Jean de Matha allait trouver le pape, lui rendre un peu compte de tous les bienfaits que l'ordre avait fait dans le monde. Surtout tous ces captifs qui ont été délivrés. Et tous ces musulmans aussi qui s'étaient convertis à la foi catholique. Et au bout de bien des années de travaux, de persécution, de prière, de souffrance, eh bien, Saint Jean de Matha mourut. Il rendit son âme à Dieu. Et il fut heureux d'avoir consacré toute sa vie pour les œuvres de miséricorde, voyez, pour tous ces malheureux qui étaient enchaînés dans les prisons, mais aussi pour les âmes. Vous voyez, la vision avait représenté deux malheureux, un chrétien et un musulman. Le chrétien était enchaîné dans son corps, mais le musulman était enchaîné dans l'erreur quant à son âme. Voyez, les deux étaient des prisonniers. Eh bien, il rendit service aux chrétiens en les délivrant de leurs chaînes du corps et aux musulmans en les délivrant des chaînes de l'erreur. Des chaînes de l'erreur qui les tenaient attachés à Satan. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, nous penserons bien à ce saint et en lui demandant de nous aider à nous délivrer des chaînes par lesquelles le démon veut nous attacher, les chaînes des passions, les chaînes du péché. Voyez, ne nous écoutons pas, ne nous laissons pas enchaîner par le démon. Par quoi il va nous enchaîner? Par l'amour de l'argent, l'amour des biens, ou par la désobéissance? Voyez, il vous apprendra, il essaiera de vous faire désobéir à vos parents. Comme ça, si vous désobéissez à vos parents, c'est à lui que vous obéissez, puis il vous mettra à ce moment-là des chaînes. Il vous tiendra attaché à lui. Voyez? Alors vous demanderez à Saint Jean de vous aider à ne pas vous laisser enchaîner par le démon, à ne pas l'écouter, afin que vous restiez toujours bien attaché à notre Seigneur et libre, libre de tous les ennemis de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Peut-être vous avez déjà regardé dans vos missels. Vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui, nous fêtions Saint Pascal Bailon. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un saint formidable. Il est né en Espagne en 1540 de parents très pauvres, des parents qui avaient quelques bétail, ils vivaient de l'agriculture, mais très très pauvres. Ils étaient pauvres dans les choses matérielles, pauvres dans les biens d'ici-bas, mais ils étaient riches de la connaissance de Dieu, des biens de Dieu. C'était très fervent, très pieux. Dès que l'enfant commençait à s'éveiller, alors il lui parlait du bon Dieu, il lui parlait du ciel, il lui parlait de toutes ces vérités, de la foi. Il lui parlait de la Sainte Eucharistie. Jésus est très présent dans l'hostie. C'est pour ça qu'à l'église, il fallait s'agenouiller, faire une belle génuflexion pour adorer Dieu. Ça avait beaucoup marqué Saint Pascal Bailon de ça. Et dès qu'il savait marcher, il allait très souvent à l'église. Il aimait aller à l'église pour être avec le bon Dieu. Si bien que quelquefois les parents ne le trouvaient plus, ils devaient le chercher et ils le retrouvaient à l'église. Ils étaient très surpris. Et puis l'enfant grandit, mais comme ils étaient très pauvres, ils n'ont pas pu le mettre à l'école. Autrefois, ce n'était pas obligatoire à l'école. Mais avec ceux qui avaient un peu d'argent, les gens aisés, qui pouvaient mettre leurs enfants à l'école. Alors à 7 ans, déjà le papa lui a confié d'aller garder les animaux, garder le troupeau. Alors il partait le matin avec les bêtes, et lui, il aurait tellement désiré lire. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il n'avait jamais appris. Mais il aurait tant voulu savoir lire. Alors il a pu se procurer quelques livres, mais il ne comprenait rien. Alors quand il était au champ, et puis que des passants passaient près de où il se trouvait, il allait vers eux, puis il leur demandait de leur expliquer quelques lettres. « Qu'est-ce que c'est ça, monsieur ? Ça, c'est un A. Ah, et puis ça, c'est un E. » Alors il était tout content de savoir, il essayait de retrouver les A et les E dans son livre. Et puis petit à petit, il apprenait comme ça, chaque fois que des gens passaient, il demandait qu'est-ce que c'était comme lettre, ça. Et il a petit à petit appris à lire comme ça. Il aimait beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'il voulait lire? Parce qu'il aurait tellement voulu lire la Bible, lire le catéchisme, lire les livres religieux. Il aimait tellement apprendre des choses sur le bon Dieu. Et comme il devait garder les animaux, il était seul au champ, pour pouvoir lire des livres tout en gardant les animaux. Et aussi, tout en gardant les animaux, eh bien, il aimait ce grand silence. Ses parents lui avaient appris que dans l'âme en état de grâce, il y avait la très sainte Trinité, il y avait le bon Dieu. Et que le bon Dieu aimait le silence pour pouvoir parler. S'il n'y avait pas du silence, le bon Dieu ne parlait pas. Alors il appréciait ces moments de silence. Il se recueillait dans un coin du champ, près d'un buisson. Il se mettait à genoux, il priait. Puis il restait des moments en silence. Il essayait d'écouter le bon Dieu, ce que le bon Dieu lui disait dans son cœur. Et le bon Dieu s'occupait de lui, il lui faisait acquérir des vertus, il lui faisait grandir dans les vertus. Vertus d'humilité, vertus de charité, vertus de modestie. Et plus tard, il commençait à devenir plus grand, le papa l'a mis à garder les troupeaux chez un riche paysan qui habitait un peu plus loin de chez lui, qui avait de nombreux troupeaux. Mais ce paysan n'avait pas d'enfant. Alors le paysan l'a pris à son travail, très content. Il a dit, j'espère que c'est un bon berger. Tu feras attention de ne pas me laisser partir les animaux dans les jardins ou chez les voisins. Oui, monsieur, je ferai attention. Alors il le laissait, puis il allait regarder comment il veillait les bêtes. Mais vous voyez qu'il s'appliquait beaucoup et qu'il était toujours très poli, d'une grande gentillesse, d'une grande bonté, d'une grande délicatesse. Le riche paysan était en admiration de voir tant de bonté, tant de délicatesse et tant de gentillesse, de politesse, qu'il s'est dit, eh bien, je veux lui parler, demain je vais lui dire quelque chose. Et le lendemain, il l'a convoqué chez lui, il lui a dit, écoutez, j'ai remarqué comment vous avez travaillé, je suis très content de ce que vous faites, de votre travail, mais je voudrais vous dire quelque chose. Je n'ai pas d'enfant, si vous acceptez, je vous adopte pour mon fils, et vous recevrez toutes mes richesses. mes terrains, mes animaux, mes fermes, tout ce que j'ai, je vous le donne. » Alors l'enfant, Saint Pascal réfléchit et dit, « Oh monsieur, je vous remercie beaucoup pour votre charité, pour votre bonté, mais vous voyez, moi, je ne veux pas les richesses d'ici-bas. Je veux les richesses du bon Dieu. Et puis aussi, je veux imiter mieux Jésus. Jésus était pauvre, était humble, et bien je veux être pauvre comme lui. » Le paysan était très surpris de cette réponse d'un enfant qui avait votre âge, 10, 11 ans, 12 ans. Oui, il était très surpris. Oh, la sagesse de cet enfant. Oui, c'était le bon Dieu qui lui avait donné ses pensées. Voyez, il avait compris que pour lui, le bon Dieu, c'était tout. Alors il a continué à garder les troupeaux de ce paysan. Et puis il sentait qu'il aurait voulu se donner tout à Dieu. Dans son âme, il aurait voulu quitter ce monde pour être tout à Dieu, pour pouvoir être près du Saint-Sacrement, pour pouvoir assister à la messe. Là, il ne pouvait pas assister à la messe que le dimanche, mais il aurait voulu assister plus. Et à l'âge de 20 ans, il partit. Il dit à ses parents, « Écoutez, je crois que je vais rentrer dans un monastère. Moi, je voudrais être avec le bon Dieu. Je veux tout quitter pour ça. » Alors les parents lui ont dit, « Bon, ben, on priera pour toi, tu prieras pour nous. » Et puis essaye. Alors il est parti, il a quitté la région. Et tout le monde pleurait son départ, parce qu'il avait beaucoup d'amis, tout le monde aimait le trouver. Il était tellement gentil. Chaque fois qu'on venait le voir, il racontait des choses sur Dieu. Il parlait du bon Dieu, de la Sainte Vierge. Il les aidait à prier, il leur apprenait à prier. Tout le monde l'avait beaucoup aimé. Il était très généreux. Quand il y avait des malheureux, il venait, il leur donnait son pique-nique. Il partait le matin au champ pour garder les animaux, il prenait avec lui un pique-nique. Alors il leur donnait son pique-nique ou une partie. Il se privait pour eux. Mais il est quand même parti. Il a marché pendant plusieurs jours. Il est arrivé dans une région où il y avait un monastère des franciscains. Mais il n'a pas osé aller tout de suite. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ose pas aller tout de suite chez eux. Je ne les connais pas. Ils vont me demander qui je suis. S'ils savent que je suis d'une famille pauvre, peut-être qu'ils ne m'accepteront pas, je ne sais pas. Alors il s'est dit, bien, je vais d'abord voir un petit peu. Je vais aller chez un paysan, là, pour garder les troupeaux. Et puis comme ça, je m'habituerai, j'irai voir de temps en temps au monastère, j'irai assister à la messe. Je verrai un peu comment ça se présente. Alors il s'est engagé, c'est un paysan. Et très vite, il fut réputé dans toute la région. On appelait le Saint-Berger. Tout le monde venait et ils admiraient ses vertus. Toujours cette grande politesse, cette grande charité, cette grande bonté envers tous ceux qui venaient le trouver, qui ne le connaissaient pas. Mais quand ils voyaient cette bonté, eh bien, ils étaient tous heureux de venir le trouver. Ils venaient souvent le voir. Il leur apprenait à prier, il leur parlait du bon Dieu encore là aussi. Il allait à la messe tous les dimanches, puis en semaine, il ne pouvait pas aller, bien sûr, il devait garder les troupeaux. Alors, quand autrefois ça se faisait, quand une messe se célébrait, d'abord on sonnait les cloches de l'église pour annoncer que la messe allait se célébrer. Puis ensuite, pendant la consécration, quand le prêtre élevait l'hostie et le calice, il y avait quelqu'un qui sonnait les cloches pour avertir à tous ceux qui étaient dans la région, « Attention, maintenant, Jésus s'offre en sacrifice. » Ça, ça avait beaucoup plu à Saint Pascal, Bailon. Alors chaque fois qu'il entendait cette cloche, il se mettait à genoux. Et il adorait Jésus, qui s'offre en sacrifice dans l'église, chez les Capucins. Et un jour, il était là en adoration, les yeux fermés, à genoux. Il y a deux anges qui sont venus près de lui, portant une custode avec une hostie dedans. La custode, c'est une petite boîte dans laquelle on met les hosties. C'est une boîte précieuse pour porter les hosties. Par exemple, celle qu'on met dans l'ostensoire. Voilà. Eh bien, les deux anges sont venus apporter l'hostie dans une custode pour qu'ils puissent l'adorer. Et depuis ce jour-là, il eut une telle dévotion à la Sainte Eucharistie qu'il y pensait sans cesse. Il faisait des communions spirituelles. Souvent, il disait, « Oh mon Dieu, que je voudrais tant vous recevoir. Venez dans mon âme. » Et puis, sentant encore de plus en plus ce désir d'aller auprès de Jésus, un jour, il est allé voir le supérieur du monastère, puis il leur a dit, « Écoutez, j'aimerais rentrer chez vous, comme frère. » Et tout le monde avait entendu parler de lui, de ses qualités, de cette vertu. Tout de suite, il a dit, mais très volontiers, vous êtes bienvenu, venez quand vous voulez. Il dit, écoutez, j'ai rien à vous offrir, j'ai rien à vous présenter, mais je ferai tout ce que vous voudrez, tous les travaux que vous pourriez me faire faire, je le ferai volontiers. Pourvu que je puisse être dans votre maison, près du Saint-Sacrement, pouvoir assister à la messe tous les jours. C'était son seul bonheur. Il avait compris que la messe, c'était le trésor caché. Et puis, tous les moines du monastère ont vu, tous les religieux ont vu la profonde piété qu'il avait, le grand amour qu'il avait de Dieu. Alors le supérieur en dit, eh bien, on va vous mettre au chœur pour chanter les offices. c'était un honneur qu'on lui faisait là. Et lui s'est dit, bien écoutez, moi je préfère rester frère. Je préfère rester à faire les tâches les plus basses du monastère. Parce qu'il y avait différentes sortes de travaux dans un monastère. Il y avait celui qui s'occupait de la sacristie, c'était un bel office, s'occuper de la sacristie, de préparer les ornements, tout ça. Il y avait le cuisinier, il y avait toutes sortes. Et puis il y avait de ceux qui avaient des travaux, nettoyage, mise en ordre, nettoyer des salles, tout ça, les travaux les plus bas. Et il y en avait de ceux qui n'aimaient pas faire ça. En général, ils n'aimaient pas faire ces travaux-là, c'était pénible, c'était des travaux sales. Et lui, il était content de faire toujours ces travaux-là. Il était content que les autres n'aimaient pas faire pour que lui puisse aller les faire. Et il faisait toujours par mot pour le bon Dieu. Et il était d'une obéissance parfaite, d'une grande humilité aussi. Un jour, ça se faisait dans les monastères, quand quelqu'un cassait une assiette ou un plat ou quelque chose, il devait se présenter devant le supérieur et toute la communauté était présente. Puis il devait s'accuser d'avoir cassé une assiette ou un verre ou un plat ou un bol. Et là, il se faisait réprimandé par le supérieur devant tout le monde. C'était humiliant. Et un jour, bien sûr, Saint Pascal Bailon, il a cassé l'assiette. Alors il a dû se présenter devant tout le monde avec l'assiette cassée. Il demandait des excuses à tout le monde d'avoir cassé l'assiette. Et le supérieur, qui avait remarqué qu'il avait une grande vertu, a voulu voir jusqu'où était sa vertu. Alors il l'a grondé, mais sévèrement, tellement sévèrement, que les autres religieux ont eu pitié de lui. Et après, quand tout le monde est parti, les religieux sont venus le trouver et lui ont dit « Oh, t'en fais pas, tu sais, c'était pas très juste qu'il ait été si sévère comme ça avec toi. » Et Saint Pascal leur a répondu « Taisez-vous, c'est le Saint-Esprit qui a parlé par la bouche du supérieur. » Il avait compris que ce que les supérieurs disaient, c'était Dieu qui le disait, c'était le Saint-Esprit qui le disait. Alors les religieux étaient très étonnés et ils étaient aussi en admiration de voir quelle réaction avait eu ce religieux vis-à-vis de son supérieur. Il voyait dans ses supérieurs l'ordre de Dieu. Et un jour, pour montrer la grandeur de cette obéissance, le supérieur qui était en Espagne voulait envoyer un religieux porter un document très important au supérieur général des franciscains, mais lui, il était à Paris. Et autrefois, il n'y avait pas le train, il n'y avait pas de voiture, c'était... on allait beaucoup à pied ou à cheval. Mais les franciscains se déplaçaient à pied, ils n'avaient pas même de chevaux. Et ça durait des jours et des jours et des mois. Seulement, il y avait un grand danger d'aller en France à pied, d'aller jusqu'à Paris à pied, c'est que on était à l'époque où les protestants calvinistes faisaient des ravages partout. Ils massacraient les moines, les religieux, ils détruisaient les couvents, ils incendiaient les couvents, ils volaient, ils pillaient tout ça, tout ce qui était religieux. Alors, il fallait pas s'aventurer d'aller sur les chemins à pied, en France, à cette époque. Et le supérieur, il devait absolument faire parvenir ce document chez le supérieur général à Paris. Alors il a regardé et puis s'est dit, oh, il y en a un qui va pouvoir le faire, c'est Pascal. Lui, il est assez courageux, il le fera. Il est tellement obéissant qu'il n'hésitera pas. Alors il lui a demandé, et tout de suite, bien sûr, il est parti, volontiers. Sans prendre même de nourriture, il est parti. Et il demandait en chemin l'aumône pour se nourrir. Puis, il est arrivé à la frontière de l'Espagne, pour entrer en France. Puis là, il y avait un monastère de franciscains aussi. Alors, il est passé la nuit chez eux. Puis ils lui ont dit, mais où vas-tu comme ça, toi? Il dit, bien, je dois aller voir le supérieur général à Paris. Mais ça va pas, c'est pas possible. Tu peux pas aller, tu te feras massacrer. À peine que tu seras entré en France, tu te feras massacrer par les huguenots, les protestants. Non, c'est pas possible. Saint Pascal, il dit, je dois obéir au supérieur. Ce que le supérieur me dit, c'est le bon Dieu qui me dit, et il n'arrivera que ce que le bon Dieu permet. Si le bon Dieu ne permet pas qu'on me tue, eh bien on ne me tuera pas. Et si l'on me tue, eh bien je suis content de mourir par obéissance. Je serai mort en accomplissant mon devoir d'obéissance. Alors les religieux se sont réunis, puis ils ont réfléchi entre eux, ils ont dit, mais est-ce que c'est bien? Et il y en a dit, oh, si c'est l'obéissance, s'il meurt par obéissance, il ira droit au ciel celui-là. Alors ils ont dit, bon ben, tu peux y aller. Avant de partir, ils lui ont dit, écoute, ça ira beaucoup mieux, tu mettras un habit civil, comme tout le monde, comme ça on ne va pas savoir que tu es un religieux, parce que si on sait que tu es un religieux, tu ne vas pas passer, hein. On te tuera. Il a dit, non, je vais comme ça, c'est mon habit de moine, de franciscain, je vais comme ça. Bon, il est parti, et bien sûr, alors sont arrivées les difficultés. Il passait dans les villages, tout le monde lui criait dessus, il prenait des pierres, il jetait des pierres, il frappait à coups de bâton, et il le suivait jusqu'au village voisin. C'était terrible, hein, c'était pas amusant. Alors il a continué, puis un jour, il a été pris. On a cru que c'était un espion. on prenait pour un espion qui venait voir comment ça se passait avec les protestants pour essayer d'empêcher l'invasion protestante. Et miraculeusement, il a été délivré. Puis un jour, il arrive près d'un château, mais il était affamé. Alors il s'est dit, moi je vais demander là qu'on me donne un peu à manger. Il est allé frapper. Et puis bien sûr, le maître du château, c'était un protestant. Quand il a vu moine religieux en habits sales, des habits transpirés, la poussière du chemin et tout ça, alors il l'a fait rentrer, il a posé des questions, puis il s'est dit, toi tu es un espion. Alors il l'a enfermé, et puis il allait le tuer, il allait le condamner à mort. Et puis la femme du maître, quand elle a su ça, elle est allée le délivrer et il a pu filer de justesse. Il allait sinon être mis à mort. Et alors il a rencontré beaucoup de difficultés, mais enfin il est quand même arrivé à Paris, porter le message, et puis il est rentré de nouveau avec bien des difficultés en Espagne. Et le bon Dieu n'a pas permis qu'il fût tué. Un jour, il rentrait donc sur l'Espagne, arrive un cavalier auprès de lui, avec une grande lance, il lui pointe la lance sur la poitrine. Puis il lui dit, où est-ce qu'il est Dieu? Alors il répond, Dieu est au ciel. Le cavalier est très étonné de la réponse, il enlève la lance, et il s'en va. Et puis, Saint Pascal, il réfléchit, il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis tout d'un coup, il dit, ben ça y est, si j'avais dit que Dieu est dans mon âme, dans mon cœur, il m'aurait percé le cœur, et je serais mort martyr. Oh, quel dommage! Quel dommage que je n'ai pas pensé de le dire avant. Oui. Je serais mort martyr et pour l'amour du bon Dieu, j'aurais donné ma vie. Il a regretté. Puis bon, il est rentré dans son monastère. Tous les moines étaient surpris de le voir revenir. Ils pensaient qu'il ne serait pas revenu, qu'il aurait été tué en chemin. Alors c'était une grande joie. Tout le monde était heureux de le retrouver parce que tout le monde l'aimait beaucoup. Tant il était gentil, poli avec tout le monde, aimable, charitable. Et puis il s'occupait beaucoup des pauvres. Il y avait beaucoup des pauvres qui venaient frapper à la porte, demander un peu à manger. Et lui, il refusait jamais rien. Puis un jour, il y avait eu une mauvaise récolte et on arrivait au bout des provisions. Et lui, chaque fois que les malheureux venaient, il leur donnait beaucoup à manger. Tout ce qu'ils voulaient, tous ceux qui venaient, il leur donnait quelque chose. Puis un jour, le supérieur l'a appelé et lui a dit, écoutez, c'est bien d'être généreux, mais quand même, il faut quand même pas oublier le monastère. Il faut quand même un peu maintenant refuser, autrement ils viennent, c'est trop facile pour eux, ils viennent, vous leur donnez à manger. Alors Saint Pascal répond, s'il y avait 12 mendiants qui venaient, et que je ne donnerais à manger qu'à 10, et que parmi les 2 qu'il y aurait en plus, se trouverait Jésus, qu'est-ce que je devrais faire? Alors le supérieur a compris, il lui a plus rien dit, et depuis il a continué à donner à tous ceux qui venaient se présenter, parce qu'il voyait dans tous ceux qui venaient Jésus. Il s'était rappelé l'histoire de Saint Martin, qui avait donné son habit, et qui la nuit avait vu Jésus revêtu de son habit. Oui. Oh, on pourrait s'allonger, on pourrait encore parler longtemps de toutes ces vertus de Saint Pascal Bailon, dont on célèbre la fête aujourd'hui, mais je vais m'arrêter, sinon on aura duré encore longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a eu une grande dévotion à la Sainte Eucharistie. Et il faisait de nombreux miracles. Par le signe de la croix, il faisait de nombreux miracles. Rien qu'en faisant le signe de la croix. Il le faisait si bien. Et avec une grande humilité, une grande foi, qu'il obtenait des guérisons. Il y avait une fois un religieux qui avait une hémorragie. Les hémorragies, c'est quand une veine saute, puis alors il y a une perte. Le sang s'écoule. Et là, on meurt. Si c'est des grandes veines, on meurt très vite. Et il a fait le signe de la croix, et dès qu'il a fait le signe de la croix, le sang s'est arrêté de couler. Et le religieux a été sauvé. Il a fait beaucoup de miracles. Il est mort à l'âge de 52 ans. Il avait prévenu l'heure de sa mort. Il est mort le jour de la fête de la Pentecôte, en 1592. Il est mort pendant la consécration, pendant l'élévation. Et alors quand tout le monde a appris la mort, sont venus mettre les chapelets sur lui, toucher son corps, baiser ses mains, tout le monde est venu pour prier, pour qu'il leur obtienne des grâces. Et on attendit 3 jours avant de l'enterrer. Un monde fou était venu pour son enterrement. Et ceux qui ont assisté à l'enterrement, ils ont remarqué. Ils n'étaient pas dans un cercueil, les moines. On les mettait là dans l'église, mais ils n'étaient pas recouverts. On pouvait voir le visage. Et pendant la consécration, quand le prêtre a élevé l'hostie, le mort a ouvert les yeux. Puis ensuite, il a refermé les yeux. Et quand le prêtre a élevé le calice avec le sang du Christ, de nouveau, il a rouvert les yeux. Puis il a refermé les yeux. Et puis ensuite, on l'a enterré. Beaucoup de monde l'ont prié. Ils ont été beaucoup exaucés. Plus tard, on a ressorti son corps de la tombe. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Qu'il était comme le jour de l'enterrement. Il ne s'était pas corrompu. C'est un miracle. Le corps s'est conservé. Alors, on l'a mis dans une châsse pour le vénérer, et beaucoup de monde venait le prier. Eh bien, aujourd'hui, il faudrait que nous demandions, Il faut demander, profiter de demander une grâce à Saint Pascal Bailan. Il est au ciel et il nous voit. Il vous voit. Il va écouter ce que vous allez lui demander. Alors qu'est-ce qu'on va lui demander? Mais il faudrait qu'on lui demande déjà un grand amour de Jésus hostie, comme lui a aimé Jésus hostie. Demandons-lui cette grâce aujourd'hui. Et puis aussi, de vivre plus intensément avec Jésus dans notre cœur. Que nous sachions faire des silences dans notre âme. Se retirer un peu dans un coin de la maison. Se mettre en silence, penser à Jésus en nous. Lui parler, comme il a fait. On va lui demander ça. Et puis aussi, il avait une très grande dévotion à la Sainte Vierge. Alors nous demanderons aussi à la Sainte Vierge qu'elle nous obtienne les grâces qu'elle, elle a obtenues pour Saint Pascal Bailan. La Sainte Vierge lui a obtenu beaucoup de grâces à Saint Pascal Bailan. Bien, nous allons demander à la Sainte Vierge qu'elle nous obtienne aussi des grâces, les mêmes grâces qu'elle a obtenues à Saint Pascal Bailan. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un saint qu'on a fêté hier. Je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous vous rappelez de quel saint il s'agit. Eh bien, hier, c'était la fête de Saint Athanase. Vous avez peut-être entendu parler, un drôle de nom, mais vous avez souvent peut-être entendu parler de ce saint que nous reprenons parce qu'il est un exemple pour notre époque aujourd'hui. Oui, pourtant, ça remonte très loin dans l'histoire. Vous savez que le démon a toujours été contre les œuvres de Dieu. Il a tout fait pour empêcher que les hommes se sauvent. Vous savez déjà, depuis Adam et Ève, le démon était furieux de savoir qu'Adam et Ève pouvaient aller au ciel, occuper les places que lui, il a perdues. Il était plein de haine et de jalousie, alors il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un péché à Adam et Ève, comme ça, ils ne pourront plus entrer au ciel, comme moi j'ai fait. Vous savez que les démons étaient des bons anges qui n'ont pas voulu obéir à Dieu et de ce fait, ils se sont coupés de Dieu. Alors, ils sont pleins de rage, ils ont dit, puis on va faire la même chose, on va tenter les hommes, Adam et Ève, comme ça ils feront le péché, puis ils pourront pile au ciel. Et c'est ce qui est arrivé, ils ont fait faire le péché à Adam et Ève, hein, au jardin, au paradis terrestre, et là, ils se sont coupés de Dieu. Mais le bon Dieu a fait quelque chose pour Adam et Ève qu'il n'a pas fait pour les démons. Il est venu racheter les hommes, mais ça il n'a pas fait pour les démons. Donc on a encore une possibilité d'aller au ciel. Alors le démon est deux fois plus furieux. Jésus s'est incarné, il est venu mourir sur la croix. Et puis il a fondé son église. Et par l'église catholique, qui est l'église fondée par Jésus-Christ, on peut se sauver. On reçoit les sacrements, on reçoit tout ce qui est nécessaire pour aller au ciel. Alors le démon furieux, il s'est dit, cette fois-ci, ça ne peut pas durer. Je vais tout casser. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Alors, il a irrité les juifs, il a irrité les païens contre les premiers chrétiens. Alors les premiers chrétiens se sont fait mettre à mort. Et c'est là qu'on a toute cette période des martyrs qui a duré 300 ans. La période des martyrs a duré 300 ans, ça a été plus ou moins fort à des époques, moins à d'autres. Mais ça a duré longtemps. Alors le démon s'est dit, en tuant les premiers chrétiens, les autres diront, oh, il vaut mieux pas se faire chrétien, sinon on se fait couper la tête ou on se fait martyriser. On préfère ne pas se faire chrétien. Il a espéré que, en faisant ainsi, les gens ne voudraient pas faire partie de l'Église catholique, autrement ils se feront trop persécuter. Et ça a été terrible. Hein? Quand on lit la vie de certains martyrs, les martyrs de certains saints, on est effrayés. On leur arrache la peau, on leur déchirait tout le corps, on les coupait en morceaux, c'est terrible. Hein? On les brûlait comme Saint-Laurent sur le grill, c'est pas intéressant. Mais le bon Dieu, il est plus malin, vous voyez. Au contraire, plus on persécutait les chrétiens, plus il y en avait de ceux qui voulaient devenir chrétiens. La grâce est puissante. Et puis un jour, le bon Dieu a dit, maintenant c'est fini. La période de persécution, c'est terminé. Et au 4e siècle, vers le 318, il y eut un empereur, Constantin. Vous avez peut-être entendu parler. C'est le premier empereur qui a donné la paix, qui a donné la paix à l'Église, qui a arrêté les persécutions. Alors le démon s'est dit, maintenant il faut que je m'y prenne autrement. Comment est-ce que je vais faire? Ça n'a rien servi de les avoir tués. Au contraire, tous ceux qui sont morts martyrs sont au ciel. Et puis, par leur souffrance, ils ont obtenu de nombreuses grâces pour la conversion et la sanctification de nombreuses âmes. Alors comment est-ce que je vais faire? Il a réfléchi un moment, puis il s'est dit, bien, je vais faire dire des erreurs par certains prêtres ou certaines personnalités importantes. Et c'est là qu'il y a eu Arius. Vous avez entendu parler d'Arius, qui était un prêtre de l'Église catholique et qui était orgueilleux. Et là, il a voulu expliquer un peu le mystère de la Sainte Trinité. Enfin, il a essayé d'expliquer un peu. Et puis, il a cru trouver une solution, mais c'était une erreur. Et la conclusion était celle-ci, c'est que Jésus-Christ était qu'une créature. Il était le Fils de Dieu, certes, mais une créature, mais pas Dieu. Or, c'est grave de dire ça, c'est très grave. Parce que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors on n'est pas racheté, parce qu'il faut un Dieu pour nous racheter. Vous voyez ? Il faut qu'il soit Dieu et homme. Alors, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'a pas pu nous racheter. Un homme ne peut pas racheter les hommes auprès de Dieu. Vous voyez ? Même un ange. Et il tenait ferme à cette théorie. C'est sûr, c'était une explication très compliquée, très fine, pleine de subtilité. Et beaucoup crurent à ce que disait Arius. Beaucoup d'évêques. Tous les évêques, presque tous les évêques d'Orient. Et puis, commençait à y avoir des difficultés, des disputes. Les gens étaient pour Arius, les autres étaient contre. Et alors, ça se luttait les uns contre les autres. Alors, il y a quelques évêques qui sont décidés de réunir un concile. Vous voyez, un concile, c'est lorsque de nombreux évêques se réunissent pour étudier une question. Concile de Nicée. Et là, l'évêque d'Alexandrie, qui s'appelait Alexandre, Saint Alexandre, alla au concile et il prit avec lui un jeune homme qui avait environ 20 ans, mais d'une très grande intelligence, qui s'appelait Athanase. Il l'avait choisi et puis il l'avait ordonné diacre. Et là, dans ce concile, Saint Athanase lui préparer des arguments pour détruire toutes ces erreurs d'Arius, pour montrer qu'Arius était dans l'erreur, c'était faux ce qu'il disait. Et il avait des arguments incroyables qui étaient. Tous les pères du concile étaient en admiration de saint Athanase. Ils ont dit, mais ça alors, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme de Dieu. Et les Ariens étaient furieux de voir que tous les arguments d'Arius ont été détruits. Toutes les objections d'Arius ont été résolues par les arguments de saint Athanase. Alors ils ont pris peur, les Ariens, en voyant qu'il y avait un homme si sage, si instruit, qui était capable de détruire toutes les erreurs des Ariens. Alors ils sont remplis de fureur et ils ont dit, on va le discréditer, c'est-à-dire qu'on va le faire prendre pour être un homme de mauvaise vie, qui a fait des choses horribles, comme ça les gens n'écouteront plus Athanase. Et puis alors, on aura un ennemi éloigné. Cinq mois après le concile de Nicée, l'évêque Alexandre meurt. Et il avait choisi pour le succéder, pour le remplacer, Athanase. Et toute la ville d'Alexandrie était d'accord, et tout le monde avait reconnu les merveilles d'Athanase. Et Athanase avait fui, il ne voulait pas devenir évêque. Lui, il aimait beaucoup se retirer dans le désert. Il avait été souvent au désert avec saint Antoine. Vous avez entendu parler de saint Antoine? Non pas saint Antoine de Padoue, mais saint Antoine du désert, le premier des ermites. C'était un grand saint. Beaucoup allaient le trouver pour recevoir des instructions, pour apprendre la vie chrétienne, la vie de piété, la vie profonde de recueillement. Et saint Athanase aimait beaucoup aller le trouver. Il avait vécu de plusieurs années avec saint Antoine. Alors il avait fui pour pas qu'on le fasse évêque. Mais les gens ont su et ils l'ont recherché et ils l'ont nommé évêque. Mais c'est que les Ariens, ils sont allés voir l'empereur Constantin. Ils ont fait des calomnies. Vous voyez ce que c'est la calomnie? C'est de dire des mensonges sur quelqu'un. Et alors Constantin, très étonné, il permit aux évêques d'Orient, aux Ariens, de faire un concile à Tyr, dans une ville d'Orient. Et là, l'empereur obligea Athanase d'aller à ce concile. Alors Athanase est allé et il se dit, eh bien je vais leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Mais c'est que eux, ils avaient préparé non pas un concile, mais un tribunal. Quand Athanase est arrivé, on l'a accusé de toutes sortes de choses. On l'a accusé d'avoir été avec une femme de mauvaise vie. Et d'ailleurs, ils avaient emmené la femme de mauvaise vie dans le tribunal, etc. Et puis on l'avait accusé d'avoir tué un évêque, de lui avoir coupé les mains. Alors ils avaient pris une main qu'ils ont mis dans une boîte. Une main qui était déjà desséchée, en disant, voilà, ça c'est la main qu'Athanase a coupée, et toutes sortes de calomnies qu'on lui avait faites. Et Athanase a répondu à toutes ces erreurs, à toutes ces calomnies, si bien qu'ils ont été encore deux fois plus furieux. Si furieux qu'ils ont voulu se jeter sur lui pour le tuer. Mais il y avait un concile des soldats. L'empereur Constantin avait fait amener des soldats. Et les soldats ont réussi à enlever Athanase. Autrement, il aurait été tué sous les coups des Ariens. Tellement ils étaient énervés de voir que tout ce qu'ils ont essayé de faire a échoué. Et ensuite, les Ariens sont allés voir l'empereur. Ils ont dit, on va aller voir l'empereur et on va lui dire maintenant que le concile a condamné Athanase. Et puis on va lui donner encore d'autres fêtes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors l'empereur fut très en colère. Alors il chassa Athanase de sa ville. Il le mit en exil à Trèves, dans un pays très éloigné. C'était un châtiment. Alors les Ariens étaient tout contents. Cette fois-ci, on a gagné. Voilà. Cette fois-ci, on a pu chasser notre ennemi. On va pouvoir continuer de répandre nos doctrines, qui étaient des doctrines erronées, des erreurs graves. Celui qui disait que Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas aller au ciel. Hein. C'est très très grave, parce qu'il n'a pas la foi, il perd la foi de dire ça. C'est contraire à l'enseignement de la révélation. Et puis, Arius mourut châtié par la main de Dieu. Vous voyez, Judas, quand il s'est pendu, tous ses entrailles se répandirent. Eh bien, Arius mourut aussi et toutes ses entrailles se répandirent. C'était un châtiment de Dieu. Alors, quand l'empereur a appris cette mort d'Arius, il eut peur. Alors, il a fait revenir Athanase à la ville d'Alexandrie. Tout le monde l'a accueilli avec grande fête, grande joie, parce qu'ils aimaient tous Athanase, qui était un homme bon, un évêque qui vraiment aimait son troupeau et s'occupait de son troupeau. Et ça a été une lutte continuelle pour Athanase. Il est revenu, les Ariens ont de nouveau déchaîné les colères contre lui, ils l'ont dénoncé, il a dû repartir en exil 5 fois. Et c'est pas rien. Un jour, l'armée avait entouré l'église d'Alexandrie, ils étaient 5000 soldats décidés de le tuer. Et le bon Dieu a fait autrement. Saint Athanase a passé au milieu des soldats sans qu'il l'ait vu. Il a passé invisible à leurs yeux. Il leur a échappé ainsi encore. Et il a été poursuivi dans le désert. On voulait vraiment le mettre à mort. Le bon Dieu n'a pas permis. Vous voyez, quand le bon Dieu ne permet pas quelque chose, les hommes ne peuvent rien faire. Pourtant, ils étaient assez armés, puis assez nombreux, 5000 hommes. Puis ils savaient qu'Athanase était dans l'église. Mais le bon Dieu n'a pas permis. Vous voyez. Donc il faut avoir une grande confiance au bon Dieu. Il ne laisse pas faire n'importe quoi. Ce qu'il interdit, les hommes ne peuvent pas le faire. Alors il y a une grande lutte. Beaucoup d'évêques, même d'Occident, ont suivi l'erreur d'Arius, si bien que même le pape Libère, quand il a entendu tout cela, il écrivit une lettre aux évêques d'Orient en disant, eh bien écoutez, je vais envoyer des légats de Rome pour aller auprès d'Athanase et pour dire à Athanase de venir à Rome. Et si Athanase ne vient pas à Rome, eh bien je le déclare excommunié. Le pape qui excommunie Athanase de son église, de l'église catholique. Et les légats sont allés. Athanase n'a pas voulu venir parce qu'il avait compris qu'ils avaient ramé un piège. Et le pape déclare, eh bien, il a écrit une lettre, une lettre qu'on retrouve encore dans les archives de Vatican, où il est écrit, eh bien, sachez qu'Athanase est excommunié. Il est en dehors de la communion de mon église. Terrible. Un pape qui excommunie un évêque. Eh bien, voyez, l'histoire nous fait comprendre qu'en fait, le pape s'est trompé. Pourtant, il a fait un acte officiel. Il s'est trompé. Athanase est devenu saint et le pape Libère n'est pas devenu saint. Voyez, c'est pour nous une consolation de connaître cette histoire de saint Athanase. Comme quoi, un seul évêque s'est opposé à tous ces évêques d'Orient et en grande partie aux évêques d'Occident. Eh bien, c'est lui qui a eu raison. Même qu'il a été excommunié par le pape, c'est lui qui a eu raison. Eh bien, c'est une situation actuelle aujourd'hui. Monseigneur Lefebvre est excommunié de l'Église catholique par un document du pape. Eh bien, cette excommunication n'est pas valide parce que ceux qui ont excommunié Monseigneur ont changé de religion. Ils sont plus catholiques. Ils ont changé la doctrine. Alors, ils ont excommunié Monseigneur parce que Monseigneur n'a pas la même doctrine qu'eux. Mais Monseigneur a gardé la doctrine que l'Église a toujours enseignée. Depuis toujours, ce que l'Église a toujours fait. Voyez. Alors, vous verrez plus tard dans l'histoire, et il y aura de nouveau un concile, il y aura de nouveau un pape qui viendra et qui dira « Monseigneur Lefebvre a raison, il a eu raison. » Et il sera remercié d'avoir résisté, d'avoir tenu, d'avoir gardé la foi dans cette période où la foi se perd. On nie beaucoup de dogmes de l'Église aujourd'hui, des dogmes catholiques, dans l'Église, par des prêtres, par des évêques. C'est très grave. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de cette vie de saint Athanase, qui est pour nous un modèle, Voyez comment il faut faire dans ces moments difficiles, il faut garder la foi, même si les autres nous persécutent, même si les autres sont contre nous. Il faut garder la foi, mais il faut d'abord bien la connaître, cette foi. Voilà, et bien nous demanderons dans cette messe à saint Athanase d'intercéder pour nous fortifier dans la foi, pour nous donner le goût de ces choses de la foi. Jésus-Christ est Dieu, et s'il est Dieu, tout ce qu'il a dit, c'est divin. L'église qu'il a fondée est divine. Les autres églises ne sont pas les églises de Dieu, ce sont les églises du démon. Vous voyez, parce qu'elles ont leur auteur, non pas Dieu, mais les hommes et le démon derrière. Toutes les autres religions, ce sont des religions des démons. C'est ce que dit la Sainte Écriture. Voilà. Donc il faut que nous demandions à saint Athanase de nous garder fidèles. Et puis demandons aussi à la Sainte Vierge, gardienne de la foi. Vous voyez, elle qui a beaucoup aidé saint Athanase, bien de nous aider aussi à garder cette foi, parce que c'est par la foi nous sommes agréables à Dieu. Vous voyez, voilà. Retenez bien cette petite histoire de saint Athanase. Si vous avez l'occasion de lire sa vie, je vous invite à la lire. Elle est admirable. Là, j'ai passé sur beaucoup de détails, mais il y a des choses merveilleuses sur cette vie. Saint Athanase, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.